Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Lorsque nous ouvrons le livre « Une année en Provence », un roman de Peter Mayle traduit de l'anglais par Jean Rosenthal, Nil Édition, nous allons, avec l'auteur et son épouse, prendre un repas chez des voisins de l'auteur. Il faut dire que le couple, très ouvert et accueillant eux-mêmes, ils ont rapidement fait de nombreux contacts dans cette région de Provence où ils viennent de s'installer. Il fait froid, une découverte pour eux, les Anglais venus d'un pays où on recherche le soleil, mais la chaleur humaine et la convivialité font merveille. Et que dire de la nourriture ? Nous en reparlerons, mais d'abord, écoutons-le nous en parler. Nous franchîmes la porte et mes lunettes s'embuèrent à la chaleur de l'âtre qui occupait presque tout le mur du fond de la pièce. La buée se dissipa et je constatai que la grande table, recouverte d'une toile cirée à carreaux, était dressée pour 10. Amis et parents, venez nous inspecter. Dans un coin, un poste de télévision babillait de la cuisine. La radio répondait et dès qu'un invité arrivait, on chassait dehors un assortiment de chats et de chiens qui revenaient aussitôt se glisser avec le suivant. On apporta un plateau d'apéritifs. Pastis pour les hommes et vin de muscat doux et frappé pour les femmes. Nous nous trouvâmes pris aussitôt sous un feu croisé de bruyantes doléances à propos du temps. Fait-il aussi mauvais que cela en Angleterre ? Seulement en été, répondis-je. Un moment, on me prit au sérieux avant qu'en éclatant de rire, quelqu'un m'épargna tout embarras. Non sans un déploiement de subtiles manœuvres pour les places, s'agissait-il de savoir, de s'asseoir le plus près ou le plus loin de nous possible, je n'en savais trop rien. Nous nous installâmes à table. C'était un repas que jamais nous n'oublierions. Plus précisément, c'était une succession de repas que nous n'oublierions jamais, car cela dépassait les frontières gastronomiques de tout ce que nous avions connu, aussi bien en quantité qu'en durée. On commença par une pizza maison, non pas une, mais plutôt trois, aux anchois, aux champignons et au fromage, et il fallait absolument en prendre une tranche de chaque. On sauçait alors les assiettes avec des morceaux de pain arrachés aux miches de 60 cm qui trônaient au milieu de la table, et le plat suivant apparaissait. Pâté de lapin, de sanglier et de grive. Énorme terrine à base de porc, rehaussée d'un peu de marc, saucisson au poivre. Petits oignons doux marinés dans une sauce tomate fraîche. On sauçait de nouveau les assiettes et on apportait un canard. Les tranches de magret que l'on voit posées en éventail et effleurées d'un soupçon de sauce sur les tables raffinées de la nouvelle cuisine étaient, Dieu soit loué, inconnu ici. Nous avions d'énormes filets, des cuisses entières, nappées d'une sauce sombre et savoureuse et cernées de champignons sauvages. Nous nous carrions sur nos chaises, heureux d'avoir été capables de terminer, et nous observions, avec un sentiment proche de l'affolement, les assiettes qu'on saussait encore, tandis qu'on déposait sur la table une énorme marmite fumante. C'est la spécialité de notre hôtesse. Un civet de lapin, du marron le plus riche et le plus soutenu. On nous écouta en souriant, demander d'une voix faible une petite part. Nous dévorâmes le civet, tout comme la salade verte aux croûtons à l'ail frit dans l'huile d'olive, tout comme les crottins rebondis de fromage de chèvre, tout comme le gâteau aux amandes et à la crème préparé par la fille de la maison. Ce soir-là, nous dînâmes pour l'Angleterre tout entière. Avec le café, on vida une collection de bouteilles aux formes étranges qui contenaient une sélection de digestifs de fabrication locale. S'il n'avait pas été bourré à éclater, mon estomac se serait serré, mais impossible de refuser devant l'insistance de mon hôte. Il fallait que j'essaie une concoction particulière faite d'après la recette remontant au XIe siècle d'un ordre de moines alcooliques des Basses-Alpes. On me demanda de fermer les yeux pendant qu'on me servait. Quand je les ouvris, on avait posé devant moi un verre empli d'un fluide jaune et visqueux. Je promenai autour de la table un regard désespéré. Tout le monde m'observait. Impossible de donner au chien l'étrange breuvage ou de le laisser s'écouler discrètement dans une de mes chaussures. Me cramponnant d'une main à la table pour me soutenir, de l'autre, je saisis le verre, fermai les yeux, adressai une furtive prière au saint patron des indigestions et me renversai en arrière en levant le coude. Je m'attendais, au mieux, à avoir la langue comme échaudée, au pis, à des papilles qui jamais ne cautériseraient, mais je n'avalerais rien d'autre que de l'air. C'était un verre truqué et pour la première fois de ma vie d'adulte, j'éprouvais un profond soulagement à ne rien avoir à boire. Le rire des autres convives s'apaisa, on brandit la menace de boisson véritable, mais ce fut le chat qui nous sauva. De son poste d'observation, en haut d'une grande armoire, il plongea à la poursuite d'un papillon de nuit pour atterrir en catastrophe parmi les tasses à café et les bouteilles disposées sur la table. Le moment nous parut bien choisi pour prendre congé. Nous rentrâmes à la maison en poussant notre estomac devant nous, insensible au froid, incapable de dire un mot. Et nous dormîmes comme des souches. Même pour la Provence, ce repas n'avait pas été banal. Les gens qui travaillent la terre ont plutôt tendance à bien manger à midi et de façon frugale le soir. Habitude saine et raisonnable et pour nous tout à fait impossible à prendre. Nous avons constaté qu'il n'y a rien de tel qu'un bon déjeuner pour nous donner de l'appétit au moment du dîner. C'est alarmant! Cela tient sans doute à cette nouvelle vie, au milieu d'une telle abondance de bonnes choses et parmi des hommes et des femmes qui vous font partager avec chaleur leur intérêt pour la nourriture. Ainsi, les bouchers ne se contentent pas de vendre de la viande. Ils expliquent longuement, tandis que la queue s'allonge derrière vous, comment la cuire, comment la servir et ce qui doit l'accompagner. La première fois que cela nous arriva, nous étions allés à Apt, acheter du veau pour préparer le ragoût provençal qu'on appelle « pebronata ». On nous indiqua un boucher du vieux quartier, réputé pour avoir une touche magistrale et aussi pour être très sérieux. « Fan de pitchoun, vous pouvez lui faire confiance !» Il avait un petit magasin. Sa femme et lui étaient corpulents. À nous quatre, nous formions une foule. Il nous écouta attentivement lui expliquer ce que nous voulions pour confectionner cette pebronata. Peut-être en avait-il entendu parler. En guise de réponse à cette question stupide, il émit de petites bouffées d'indignation et se mit à affûter un énorme couteau avec une telle énergie que nous reculâmes d'un pas. « Nous rendions-nous compte, déclara-t-il, que nous avions devant nous un expert, peut-être la plus grande autorité du Vaucluse en matière de pebronato. » Sa femme renchérit avec des hochements de tête admiratifs. « Allons, poursuivit-il, brandissant devant nous 25 centimètres d'acier des plus tranchants. Il avait écrit un livre là-dessus, ouvrage définitif, qui contenait 20 variantes de la recette de base. Nouveau hochement de tête de sa femme, elle jouait le rôle de l'infirmière principale auprès de l'éminent chirurgien, en lui passant des couteaux à aiguiser avant l'opération. Sans doute avions-nous paru vivement impressionnés, car il exhiba une magnifique pièce de veau et prit un ton professoral. Il para la viande, la coupa en dés, emplit un petit sac d'herbes hachées, nous dit où aller acheter les plus beaux poivrons, 4 verts et 1 rouge, pour des raisons esthétiques. Répéta à 2 reprises la recette pour bien s'assurer que nous n'allions pas commettre une bêtise et suggéra un Côte-du-Rhône approprié. « Pensez donc, une pebonata, ainsi je connais !» Les gourmets ne manquent pas en Provence et on a souvent entendu des perles de sagesse venues de sources inattendues. Nous commencions à nous habituer au fait que les Français se passionnent autant pour la cuisine que d'autres nations pour le sport et la politique. Mais ce fut une surprise d'entendre M. Bagnol, le cireur de parquet et de tomates, coter les restaurants à 3 étoiles. Venu de Nîmes pour sabler un sol d'allée, il apparut dès lors qu'il n'était pas homme à plaisanter avec son estomac. Chaque jour à midi précis, il ôtait sa salopette et s'en allait passer 2 heures dans un des restaurants locaux. Il ne l'estimait en général pas mauvais, mais bien sûr, rien à voir avec Beaumanière au beau. Beaumanière a 3 étoiles dans le Michelin et 18 sur 20 dans le Goemio. C'était là, affirmait-il, qu'il avait dégusté un loup en croûte absolument exceptionnel. Certes, les 3 gros de Roanne étaient un superbe établissement aussi, mais encore que sa situation en face de la gare fût loin de valoir celle des beaux. Les 3 gros ont 3 étals, 3 étoiles dans le Michelin, 19,5 dans le Goemio. Cela continuait ainsi, tandis qu'il ajustait ses genouillères et astiquait le sol. Guide vivant des 5 ou 6 restaurants les plus chers de France où M. Bagnol s'était rendu lors de ses périples gourmands annuels. Il était allé une fois en Angleterre et avait goûté du rôti d'agneau dans un hôtel de Liverpool. Gris, triste et sans goût. Mais naturellement, disait-il, on sait bien que les Anglais tuent leurs agneaux 2 fois. Une fois quand ils l'abattent et une fois quand ils le font cuire. Je baptise en retraite devant un mépris aussi cinglant pour la cuisine de mon pays et je le laissai à son sol rêver de sa prochaine visite chez Bocuse. Le temps continuait d'être rude, avec des nuits d'un froid mordant, scintillantes d'étoiles et des levées de soleil spectaculaires. À l'aube, le soleil semblait anormalement bas et son disque énorme dispensant partout un éclat éblouissant ou des ombres tranchées. Les chiens couraient loin devant moi et je les entendis aboyer bien avant d'apercevoir ce qu'ils avaient découvert. Nous étions arrivés dans une partie de la forêt où le terrain descendait pour former une profonde cuvette au fond de laquelle, 100 ans plus tôt, un fermier mal conseillé avait bâti une maison qui baignait presque en permanence dans la pénombre des arbres alentour. J'étais passé là bien des fois. Les volets étaient toujours fermés et seule la fumée qui sortait de la cheminée signalait une présence humaine. Dans la cour, 2 grands bergers allemands au pelage crasseux et un cornion noir ne cessaient de patrouiller, hurlant et tirant sur leurs chaînes en s'efforçant d'attaquer tout ce qui bougeait. Ces chiens avaient la réputation d'être méchants. L'un d'eux s'était échappé et avait mordu au jarret Pépé Clément. Les miens, pleins de courage lorsqu'ils étaient confrontés à des chiens craintifs, avaient sagement décidé de ne pas passer trop près de trois paires de mâchoires hostiles et avait pris l'habitude, pour éviter la maison, de faire un détour par un petit tertre abrupt. Ils étaient là-haut maintenant, prodiguant ces aboiements nerveux et incertains qu'ont les chiens pour se rassurer, comme les hommes sifflent pour tromper leur peur. J'arrivais en haut de la butte avec le soleil dans les yeux, mais je distinguais entre les arbres une silhouette à contre-jour, une auréole de fumée autour de la tête. Les chiens, à distance prudente, l'examinaient bruyamment. Je m'approchai. L'homme me tendit une main froide et calleuse. « Bonjour !» Il dévissa un mégot du coin de sa bouche et se présenta. « Rivière Antoine !» Il était en tenue de combat. Blouson de camouflage taché, casquette militaire à large visière, cartouchière en bandoulière et fusil à pompe. Son visage avait la couleur et la texture d'un steak cuit un peu vite avec un nez en forme de coin à fendre le bois qui faisait saillie au-dessus d'une grosse moustache jaunie de nicotine. Des yeux bleu pâle me dévisageaient à l'abri d'une broussaille de sourcils roux et son sourire délabré aurait poussé au suicide le dentiste le plus optimiste. Il y avait néanmoins chez lui une certaine amabilité et un soupçon de folie. Je demandai si la chasse avait été bonne. « Un renard !» répondit-il, « mais trop vieux pour qu'on le mange !» Il haussa les épaules et alluma une autre de ses grosses cigarettes boyard, roulées dans du papier maïs et qui sentaient comme un feu de jardin dans l'air matinal. « En tout cas, » dit-il, « il n'empêchera plus mes chiennes de dormir la nuit !» Et de la tête, il désigna la maison dans le creux. Je dis que ces chiennes n'avaient pas l'air commodes et il eut un grand sourire. « Oh » dit-il, « ils sont joueurs !» Et jouait-il le jour où l'un d'eux s'était échappé et avait attaqué le vieil homme ?« Ah, ça !» Ce pénible souvenir lui fit secouer la tête. « Ce qu'il y a, dit-il, c'est qu'il ne faut jamais tourner le dos à un chien joueur !» Et le vieil homme avait précisément commis cette erreur. Une vraie catastrophe. Je crus un instant qu'il regrettait la blessure infligée à Pépé Clément, une veine de la jambe sectionnée qui avait nécessité une visite à l'hôpital. Mais je me trompais. Rivière était simplement triste parce qu'il avait dû acheter une chaîne neuve et que ses voleurs de cavaillon la lui avaient fait payer 250 francs. Ça l'avait plus affecté que cette histoire de morsure. Pour lui épargner de nouvelles angoisses, je changeai de sujet et lui demandai poliment s'il mangeait vraiment du renard. Une question aussi stupide parut le surprendre. Il me regarda quelques instants sans répondre, comme s'il me soupçonnait de vouloir me moquer de lui. « On ne mange pas de renard en Angleterre ?» J'imaginai des membres de la chasse Belvoir adressant une lettre au Times et succombant à une crise cardiaque collective devant une suggestion aussi peu sportive et typiquement étrangère. Non, on ne mange pas de renard en Angleterre. On met une redingote rouge, on le poursuit à cheval avec une meute et ensuite on lui coupe la queue. Il pencha la tête de côté, stupéfait. Ils sont bizarres, les Anglais. Là-dessus, avec entrain et en s'accompagnant de gestes affreusement explicites, il décrivit ce que les gens civilisés faisaient d'un renard, et que j'en prenne bonne note. Civé de renard à la façon rivière. Viser un renard jeune si possible et veiller à l'abattre proprement d'une balle dans la tête qui ne présente pas d'intérêt culinaire. La chevrotine dans les parties comestibles du renard peut ébrécher les dents des convives. Rivière me montra deux des siennes et provoquait des indigestions. Dépouiller le renard et couper lui les parties. Ici, Rivière accompagna son propos d'un coup de main tranchant sur l'aine, suivi de savants mouvements de torsion et de tiraillement, accompagné de couinements pour illustrer les tripages de la bête. Laisser la carcasse dépouillée pendant 24 heures sous de l'eau courante froide afin d'éliminer le goût sauvage. Égoutter. enveloppé dans un sac que vous accrochez dehors toute la nuit, de préférence quand il gèle. Le lendemain matin, mettez le renard dans une marmite en fonte et couvrez d'un mélange de sang et de vin rouge. Ajoutez des fines herbes, des oignons et des têtes d'ail et faites mijoter un jour ou deux. Rivière s'excusa pour son manque de précision, mais expliqua que le temps de cuisson variait en fonction de la taille et de l'âge de la bête. Autrefois, on mangeait ce plat avec du pain et des patates bouillies, mais aujourd'hui, grâce au progrès et à l'invention de la friteuse, on pouvait le déguster avec des pommes frites. Rivière, maintenant, était d'humeur loquace. Il habitait seul, me raconta-t-il, et on ne voyait guère de monde en hiver. Il avait passé sa vie dans les montagnes, mais peut-être le temps était-il venu d'aller s'installer dans le village où il pourrait se retrouver parmi des hommes. Bien sûr, ce serait une tragédie de quitter une aussi belle maison, si calme, abritée du mistral, parfaitement située pour échapper à l'ardeur du soleil de midi, un endroit où il avait passé tant d'années heureuses. Cela lui briserait le cœur, à moins. Il me regarda de près, ses yeux pâles mouillés de sincérité, à moins qu'il puisse me rendre service en permettant à un de mes amis d'acheter sa maison. Je contemplai le bâtiment, quasiment en ruine, aplati dans l'ombre, avec les trois chiens arpentant sans fin la cour au bout de leur chaîne rouillée, et je songeai que dans toute la Provence on aurait du mal à trouver un endroit moins tentant pour y vivre. Pas de soleil, pas de vue, aucun sentiment d'espace et presque à coup sûr un intérieur humide et triste. Je promis à Rivière d'y penser et il me fit un clin d'œil. « 1 000 000 de francs, me dit-il, un sacrifice peu cher. » D'ici là, en attendant qu'il eût quitté ce petit coin de paradis, si je voulais savoir n'importe quoi concernant la vie rurale, il ne demandait qu'à me conseiller. Il connaissait chaque centimètre carré de la forêt, les coins à champignons, les points d'eau où le sanglier venait boire, quel fusil choisir, comment dresser un chien de chasse. Il savait tout et ses vastes connaissances étaient entièrement à ma disposition. « Je le remerciai, c'est normal, » dit-il, et il descendit à grands pas le coteau jusqu'à sa résidence d'un 1 000 000 de francs. Quand je racontai à un ami du village que j'avais fait la connaissance de Rivière, il sourit. Il vous a dit « Comment faire cuire un renard ?» J'acquiesçai. « Il a essayé de vendre sa maison ?» J'acquiesçai. Le vieux blagueur, il est gonflé. Peu importait. Je l'aimais bien et j'avais l'impression qu'il constituerait une inépuisable source d'informations aussi fascinante qu'extrêmement suspecte. Maintenant qu'il avait proposé de m'initier aux joies des passe-temps rustiques et M. Colombani à celles de problèmes plus scientifiques comme l'aplatissement de la terre, il ne me manquait plus qu'un navigateur pour me piloter dans les eaux troubles de la bureaucratie française. Celle-ci, en effet, dans ses subtilités, peut transformer une taupinière d'activité en une montagne de frustration. Les complications qui avaient entouré l'achat de la maison auraient dû me mettre en garde. Nous voulions acheter, le propriétaire voulait vendre. On s'était mis d'accord sur un prix, tout était clair. Mais là-dessus, nous dûmes bien malgré nous adonner à ce sport national qu'est la course à la paperasserie. On réclama des extraits de naissance pour prouver notre existence, des passeports pour établir que nous étions britanniques, des actes de mariage pour nous permettre d'acheter la maison conjointement, la preuve que nous avions une adresse en Angleterre, nos permis de conduire, établis tout bonnement à notre adresse, furent jugés insuffisants. N'avions-nous pas une preuve plus officielle de l'endroit où nous vivions, une vieille facture d'électricité, par exemple ? Il s'ensuivit un long échange de correspondances entre la France et l'Angleterre, qui nous permit de recueillir tous les renseignements nous concernant, à l'exception de notre groupe sanguin et de nos empreintes digitales, jusqu'au moment où le notaire local eut nos devis enfermés dans un dossier. On put alors procéder à la transaction. Nous fîmes preuve d'une certaine indulgence pour l'administration. Nous étions des étrangers achetant une parcelle du territoire français et de toute évidence, il fallait préserver la sécurité nationale. Des affaires moins importantes seraient à n'en pas douter plus rapides à régler et exigeraient moins de paperasse. Nous allâmes acheter une voiture. C'était la 2 chevaux Citroën standard, modèle qui a très peu changé au cours des 25 dernières années. On pouvait donc trouver des pièces détachées dans chaque village. Sur le plan mécanique, elle n'est guère plus compliquée qu'une machine à coudre et n'importe quel forgeron raisonnablement compétent peut la réparer. Le modeste niveau de sa vitesse de pointe a quelque chose de réconfortant. Hormis le fait que sa suspension a un caractère gélatineux qui en fait la seule voiture au monde susceptible de vous donner le mal de mer. C'est un véhicule charmant et pratique. Et le garage en avait justement une en stock. Le vendeur examina nos permis de conduire, valables dans tous les pays du marché commun jusqu'au-delà de l'an 2000. Il secoua la tête avec une expression d'infini regret et nous regarda dans les yeux. « Non. Non ? Non ! » Nous exhibâmes notre arme secrète, 2 passeports. « Non. » Nous fouillâmes dans nos papiers. Que pouvait-il bien vouloir ? Notre acte de mariage, une vieille facture d'électricité anglaise ? Nous renonçâmes et nous demandâmes ce qu'il fallait, à part l'argent, pour acheter une voiture. « Vous avez une adresse en France ?» Nous la lui déclinâmes et il la nota avec grand soin sur le certificat de vente, en s'assurant de temps en temps que le 3e exemplaire était lisible. « Vous avez la preuve que c'est votre adresse ? Une facture de téléphone ou d'électricité ?» Nous expliquâmes que nous n'en avions encore aucune, car nous venions tout juste d'aménager. Il expliqua qu'il fallait une adresse pour l'établissement de la carte grise, l'acte de propriété du véhicule. Pour authentifier l'adresse, une facture EDF. Pas d'adresse, pas de carte grise, pas de voiture. Par bonheur, son instinct de vendeur l'emporta sur son plaisir d'explorer une impasse bureaucratique et il nous proposa une solution. Si nous lui fournissions l'acte de vente de notre maison, l'affaire pourrait connaître un dénouement heureux et rapide et nous pourrions entrer en possession de la voiture. Ce document se trouvait à l'étude du notaire, à 25 kilomètres. Nous allâmes le chercher et le déposâmes triomphalement sur son bureau en même temps qu'un chèque. Pourrions-nous maintenant disposer de la voiture ? Malheureusement, non. Il nous fallait attendre que le chèque eût été encaissé. C'était l'affaire de 4 ou 5 jours, même s'il était tiré sur une banque locale. Ne pourrions-nous pas aller ensemble à la banque pour que le vendeur puisse l'encaisser immédiatement ? Impossible ! C'était l'heure du déjeuner. Les deux domaines dans lesquels la France est championne du monde, la bureaucratie et la gastronomie, s'étaient liés pour nous contrecarrer nos projets. Cet incident provoqua chez nous une paranoïa bénigne. Et pendant des semaines, nous ne sortions jamais sans photocopie des archives de la famille, brandissant passeport, extrait de naissance sous le nez de tout un chacun, depuis la caissière du supermarché jusqu'au vieil homme qui chargeait le vin dans la voiture de la coopérative. On examinait toujours ces papiers avec intérêt, car ce sont des choses sacrées et qui méritent le respect. Mais on nous demandait souvent pourquoi nous les avions sur nous. Était-on obligé de vivre ainsi en Angleterre ? Quel pays étrange et fatigant ce devait être ! À cela, la seule réponse concise était un haussement d'épaules. Nous pratiquâmes avec assiduité le haussement d'épaules. Le froid dura jusqu'au dernier jour de janvier, puis le temps se radoucit sensiblement. Nous attendions le printemps et j'avais hâte d'entendre les prévisions météorologiques d'un expert. Je décidai d'aller consulter le sage de la forêt. Rivière tira sur sa moustache d'un air songeur. « Il y avait des signes, » dit-il. « Les rats sentent le radoucissement du temps bien avant n'importe lequel de ces satellites compliqués et ces derniers jours. » Les rats, dans sa toiture, avaient déployé une activité inhabituelle. À vrai dire, il l'avait réveillé une nuit et il avait lâché 2 ou 3 coups de feu dans le plafond pour les calmer. Eh oui ! C'était bientôt la nouvelle lune et à cette époque de l'année, ça amenait souvent un changement de temps. S'appuyant sur ces 2 présages significatifs, il prédit un printemps chaud et précoce. Je regagnai en hâte la maison pour voir s'il n'y avait aucune trace de floraison sur l'amandier et j'envisageai de faire récurer la piscine. Février. La première page de notre quotidien est d'ordinaire consacrée aux résultats obtenus par les équipes de football locales, aux pompeuses déclarations des politiciennes de second plan, à des reportages haletants sur des attaques à main armée au supermarché à Cavaillon, le Chicago de Provence, et de temps en temps à de macabres comptes rendus de brusques décès sur les routes causés par des conducteurs de petites Renault qui se sont pris pour Alain Prost. Un matin, au début de février, cette une traditionnelle céda la place à un grand article qui n'avait rien à voir avec le sport, le crime ou la politique. « La Provence sous une épaisse couche de neige », proclamait le gros titre sous lequel on sentait percer une certaine allégresse devant la perspective des reportages qui ne manqueraient pas de susciter le comportement hors de saison de la nature. Il y aurait des mères et des bébés qui auraient miraculeusement survécu à une nuit passée dans une voiture bloquée par des congères. Des vieillards échappant de peu à l'hypothermie grâce à l'intervention de voisins vigilants et animés d'un saint esprit civique. Des grimpeurs arrachés au flanc du Mont Ventoux par hélicoptère. Des facteurs luttant contre les intempéries pour porter des notes d'électricité. De vieux du village ressassant les catastrophes précédentes. Il y avait de quoi nourrir des copies et j'imaginais l'auteur de ce premier article se frotter les mains d'impatience en marquant un temps entre 2 phrases pour trouver quelques points d'exclamation supplémentaires. 2 photographies accompagnaient ce texte plein d'entrain. L'une montrait une rangée de parapluies blancs et emplumés, les palmiers couverts de neige de la promenade des Anglais à Nice. l'autre représentait une silhouette emmitouflée dans une rue de Marseille, traînant dans la neige un radiateur à roulettes au bout d'une corde, comme un homme qui promène un chien osseux et obstiné. Pas de photo de la campagne sous la neige, car la campagne était coupée du monde. Le chasse-neige le plus proche était au nord de Lyon, à 300 km de là, et pour un automobiliste provençal, fût-ce un intrépide journaliste, grandi sur la rassurante adhérence de l'asphalte, mieux valait éviter l'horreur de valser sur le verglas en restant chez soi ou en se terrant dans le bar le plus proche. Après tout, cela ne durerait pas longtemps. Il s'agissait d'une aberration, d'un hoquet climatique de courte durée, simple prétexte pour prendre un second café crème et peut-être quelque chose d'un peu plus fort pour remettre le cœur en route avant de s'aventurer dehors. Durant les jours froids de janvier, notre vallée connut un très grand calme, mais la neige maintenant avait ajouté une couche supplémentaire de silence, comme si toute la région avait été insonorisée. Nous avions le Luberon pour nous tout seuls, superbe et mystérieux, un kilomètre après l'autre, couvert d'une couche blanche, marqué de loin en loin par des traces d'écureuils et de lapins, franchissant les sentiers en ligne bien droite. Pas une empreinte de pas humain, à l'exception des nôtres. Les chasseurs, si visibles par temps plus clément, avec leur artillerie et leur arsenal de salamis, de baguettes, de canettes de bière et de gauloises, qui permet d'affronter une journée entière. La nature primitive n'était pas sortie de leur terrier. Ce bruit, que nous prenions par erreur pour des coups de feu, était celui des branches qui cassaient sous le poids de gros paquets de neige. À part cela, tout était si silencieux que, comme le fit remarquer plus tard Rivière, on aurait entendu péter une souris. Près de la maison, l'allée était devenue un paysage montagneux en miniature. Le vent avait poussé la neige en congère et on enfonçait jusqu'aux genoux. On ne pouvait circuler qu'à pied. Acheter un pain devenait une expédition qui prenait au moins 2 heures. On pouvait aller jusqu'à Ménerbe et retour sans apercevoir un seul véhicule en mouvement. Les bosses blanches des voitures à l'arrêt, attendant aussi patiemment que des moutons au flanc de la colline qui menait au village. Ce temps de carte de Noël avait contaminé les habitants. Ils s'amusaient beaucoup de leurs propres efforts pour négocier les pentes abruptes et les rues étroites, soit en avançant dans un vacillement précaire, soit en se penchant plus dangereusement encore en arrière pour poser les pieds avec la lenteur maladroite de patineurs éméchés. L'équipe de nettoyage municipal, 2 hommes armés de balais, avait déblayé les voies d'accès aux services essentiels, boucher, boulanger, épicerie et café. Et de petits groupes de villageois plantés au soleil se félicitaient du courage dont ils faisaient montre devant l'adversité. Un homme à ski apparut devant la mairie et, avec une admirable précision, entra en collision avec le seul autre propriétaire d'un moyen de transport, un homme juché sur une luge antique. Quel dommage que le journaliste du Provençal n'ait pas été là pour le voir. La neige fait des victimes. Collision frontale, aurait-il pu écrire en assistant à toute la scène sans quitter le confort douillet du café. À l'occasion de sa rencontre avec Rivière Antoine, Peter Mayle a fait connaissance avec un nouveau type d'original. Justement, c'est à la bureaucratie qu'ils ont du mal à s'habituer. Acheter une maison, une voiture, parler réparation, toute une histoire qui se poursuivra dans le prochain épisode du livre « Une année en Provence » de Peter Mayle, 1000 éditions. N'oubliez pas de me suivre sur Radio Alliance Plus. N'oubliez pas aussi, je lis pour vous, la suite de ce livre plein de vie, d'humour et qui sent bon le Sud. À bientôt, chers auditeurs.
Pour partager vos événements à l'antenne, agenda@radioalliance-plus.fr.